Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairies. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Et bonjour, chers auditeurices, bienvenue dans ce 10-10 du jeudi 4 décembre. Nathalie au micro, en compagnie de Lou. Bonjour Lou.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va recevoir, c'est presque une copine maintenant.
Oui, exactement.
Ah, voilà. On va recevoir Alissandre Lopez. Donc, contrairement à mes habitudes, je ne vais pas vous voyer, mais je vais tutoyer et je vais te dire bonjour Alissandre.
Bonjour Lou et bonjour Nathalie.
On est ravis de te retrouver parce que c'est un rendez-vous qu'on se donne quasiment presque depuis un an maintenant. On va expliquer pourquoi tu es au micro aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau à la radio. Alissandre, tu es présidente de l'association Regards Féminins qui valorise et promeut les femmes artistes en mettant en lumière leur création, leur parcours et leur voix trop souvent invisibilisée, mais c'est comme un peu partout. Tu es également coordinatrice, et c'est à cette occasion-là qu'on s'est rencontrés, donc tu es coordinatrice avec Iseline Pérez-Kovacs de l'événement Résilience, avec un I entre parenthèses, l'art face aux violences faites aux femmes, et ça avait eu lieu le samedi 8 mars 2025 au Centre Rabelais.
Oui, c'est ça.
Et il y avait une expo à Tropisme aussi, j'ai vu qu'il y avait un truc à Tropisme.
Oui, en fait, c'est une expo itinérante. Donc, elle a eu lieu au Hall Tropisme, elle a eu lieu à Rabelais et après dans des maisons pour tous sur Montpellier.
Cet événement, voilà, c'était donc dans ce mois de mars riche en manifestations autour des droits des femmes, sur la visibilité dans les espaces publics. C'est bien pour ça aussi que ça se baladait un peu partout dans Montpellier, des victoires féminisme et des enjeux encore à conquérir. Résilience proposait une exposition photographique avec des artistes, on peut peut-être les citer, Lunatica, tu m'arrêtes hein, si je dis pas bien, Carny Bird, Anna Madet, Niden Lafay et Marina Birnbaum-Baumann. Et puis, il y avait des conférences aussi sur la résilience.
Oui.
On avait parlé beaucoup ce jour-là de la résilience et de la notion de résilience qui pouvait être aussi mise un peu à toutes les sauces.
C'est ça. En fait, dans l'événement, il y avait une première partie sur comprendre la résilience. Et donc, à ce moment-là, il y avait deux psychologues qui étaient spécialisés en psychotrauma. Féministe engagée qui avait subi des viols et qui avait fait tout le processus d'aller porter plainte, enfin les procès, et qui revenait en fait sur comment la justice avait traité son dossier, puisqu'il y avait eu une plainte qui avait abouti, où en fait elle a été reconnue victime, et une autre où elle n'a pas du tout été reconnue victime. Donc ça veut dire que au procès,
je crois que c'est un sur 100 qui, alors les procès non, mais je crois que c'est un viol sur 100 qui est puni. C'est hallucinant,
oui,
le chiffre.
Oui, c'est pas beaucoup.
Non, c'est vraiment hallucinant. Et malgré une formation quand même qui est faite en ce moment chez les juges, chez les policiers, tout ça, il y a une sensibilisation depuis MeToo justement sur la prise en charge.
Je crois qu'ils n'ont pas assez de moyens. Enfin, c'est pas mis en place. Il y avait aussi dans la conférence un représentant de l'association Avocats et Violences Conjugales, où eux, ils font ce travail-là de former les avocats à accompagner des victimes de violences conjugales ou de viols.
Et tu avais senti ce jour-là dans la conférence que les choses commençaient un petit peu à bouger, ou c'est vraiment très très long?
Ça, c'est long quand même. Après, c'est plus
un ressenti,
mais j'ai l'impression que l'État ne met pas les moyens pour former les policiers ou tout ce qui va être dans le milieu judiciaire. Et Et en fait, les psychologues parlaient aussi, oui, de qu'il y ait des injustices.
Oui.
C'est-à-dire que si je suis bien entourée, par exemple, si j'ai été victime de violences faites par un homme, si je suis bien entourée, si j'ai accès à des professionnels de santé, que je peux me payer un psychologue, et ben
c'est beaucoup plus facile.
C'est ça.
Oui, bien sûr, oui. C'est sûr que des fois, la détresse ou la solitude
Et la précarité.
Et la précarité n'aide pas à... Bien sûr, c'est celle qu'on parle très bien, c'est la sœur de Marina Foïs. Julia Foïs, qui a été victime d'un viol. En plus, c'était un mauvais viol. Hein. Voilà, c'était un viol qui était fait par un homme blanc.
Parce qu'il y a des bons
viols. Bien sûr. Évidemment, non, mais alors elle explique très bien, c'est que le mauvais viol, c'est enfin le viol où tu es entendu, si le mec il est arabe, qu'il est SDF et qu'il avait fumé un chichon avant, il a beaucoup plus de chances d'être inculpé. Alors qu'elle, elle a été violée par un mec qui était cadre supérieur dans une entreprise, dans un parking à la Défense, où le mec il était marié, père de famille, etc. Et donc ça a été extrêmement dur pour elle. Bien sûr qu'il y a un rapport de classe dans le traitement par la justice. Ça, c'est pour moi une évidence.
Moi, j'ai l'impression qu'on le voit aussi dans les médias. C'est-à-dire que la majorité des viols, c'est quand même commis par des gens qu'on connaît. Et pourtant, dans les médias, on va voir surtout des faits divers. Il n'avait pas ses papiers, il était SDF et il a violé des personnes. Enfin, et donc, au final, c'est pas du tout représentatif de ce qui se passe
réellement. Alison, comment t'en es revenue à t'intéresser à ça? Quel est ton parcours, toi? Parce que t'es graphiste, je crois.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui a fait que dans ta vie, t'as eu envie de rentrer dans ce combat et surtout de lier l'art à la résilience?
Mais j'ai un parcours donc, de graphiste. Et donc, j'ai plein d'amis femmes qui sont aussi artistes. Et qui ont du mal à percer. Et de plus, moi, je me rends compte que dans tous mes cours d'histoire de l'art, bah, en fait, on parle que d'hommes. C'est assez rare de voir une femme, surtout... Il y en avait aussi au Moyen-Âge, à la Renaissance, mais on n'en parle jamais. Et il faut vraiment aller creuser le sujet pour en trouver. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais creuser ça et expliquer pourquoi, à chaque période...
T'as une grande, grande, grande pelle pour aller creuser, parce que je peux te dire que tu vas aller creuser loin. C'est un vrai sujet.
Oui.
C'est un vrai sujet. Il y a toujours eu des femmes poètes, il y a toujours eu des femmes peintres, mais bon, il y en avait quand même moins d'hommes, parce que généralement, Bobonne faisait bouillir la marmite pendant que monsieur créait. C'est un peu ça aussi, je veux dire, la problématique des femmes, c'est que... C'était aussi une liberté, c'était pas bien vu non plus. Oui. Tu t'es renseigné un peu ça, Lou? Ça t'intéresse justement la femme et la création et le fait que d'être femme est quand même.
Toi, tu parlais d'artiste, mais tout simplement quand on étudiait la littérature au lycée, c'était que des hommes. Mais vraiment que des hommes. Et je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, quand je me dis quels sont les écrivains connus, les poètes connu, je pense directement à des hommes. Je pense à Rimbaud, Baudelaire et les femmes, mais je cherche toujours un peu. Enfin, j'ai besoin de creuser vraiment et je trouve ça fou.
Alors, une autrice femme?
Une autrice femme. Bah,
dans les classiques, je parle.
Louise. Pas Louise, mais celle qui fait... je sais plus. Je brûle comme... Non.
Non, je vois pas.
Je sais plus, mais je crois que c'est Louise quelque chose. Mais après, culture.
Non, mais dans les poètes, moi, je pense évidemment à Louise Labbé, qui est une qui a écrit un très beau texte, qui a été très mal, qui s'écrit baise-moi encore, baise-moi et baise, donne-moi de tes, parce qu'à l'époque au Moyen Âge, baiser c'était juste embrasser, évidemment. Non, moi, je pense à George Sand beaucoup.
Souvent, oui, George Sand. Oui, bien sûr, oui. Mais là, j'ai un livre sur.
Mais George Sand, si je dis pas de bêtises, c'est un pseudonyme.
Oui, bien sûr.
C'est un pseudonyme pour pouvoir être publié.
Bon, vas-y, Lou.
Mais en fait, il y en a beaucoup que j'ai oublié. Non, je vais pas dire de bêtises.
Alors, en musique, c'est une catastrophe. En musique, c'est une catastrophe. C'est très difficile d'en trouver. En poésie, il y en a quelques-unes. En littérature, il y en a aussi quelques-unes. En peinture, il y a Berthe Morisot, hein, mais ou Vigée Lebrun, celle qui Vigée Lebrun, elle est connue parce qu'elle, c'est elle qui a peint Marie-Antoinette. Tu vois, donc la peinture. Mais bon, c'est vrai que la femme et l'art, c'est un sujet de nombreuses émissions, mais nous allons revenir.
Bon, on retourne
ouais, à notre, retourne à notre sujet.
Exactement. du coup, comment est née l'association Regard Féminin et qu'est-ce que sont les missions principales aujourd'hui?
C'est avec Isoline, en fait, on a monté cet asso. Et à la base, c'était vraiment, oui, pour promouvoir... les femmes artistes. Et on a commencé par le gros sujet de la résilience et des violences faites aux femmes. Là, Isoline est en train de monter un projet. Je crois que ça va arriver très prochainement. Il faudrait que je lui demande. Je crois que c'est en février. Avec du catch, où il y a autant d'hommes que de femmes. Alors que dans le catch, normalement, il y a sur cette représentation, il va y avoir une féminine et tout le reste, c'est masculin. Et là, elle a réussi à avoir une mixité. Donc voilà. Et quand on parle, on pense au catch, on ne pense pas forcément aux femmes, plutôt aux hommes, la bien testostéronée et tout. Et en fait, il y a des femmes qui sont géniales. Et en France, c'est une toute petite communauté. C'est plutôt connu aux États-Unis, mais là, en France, c'est une petite communauté. Et je trouve ça chouette de visibiliser ça.
Ça vous écarte de l'art ou tu penses que le catch, c'est aussi une forme d'art?
Ah, mais c'est une forme d'art.
Ouais. C'est de l'art.
Toi aussi, Lou?
Oui, oui. C'est complètement. Bah, c'est une mise en scène.
Ouais, ouais.
C'est pas du vrai.
C'est ça. Et puis, chaque personne a ses personnages. Travailler avec le personnage qui gagne et le personnage qui perd, ils ont chacun leur personnage. Et c'est génial. Et donc, ça. Il y a aussi faire valoir cette culture-là, cet art-là, et de faire découvrir des sportives féminines.
Et comme autre projet, qu'est-ce que vous avez pu organiser?
Vu que c'est assez récent, on n'a pas organisé... Enfin voilà, c'est les deux projets organisés de l'association. Après, il y a un autre projet, mais qui sera plutôt à long terme, qui serait de faire une exposition des femmes artistes au cours des siècles, avec les problématiques qu'elles avaient dans chaque siècle différent.
C'est un gros projet, ça. Ouais.
C'est ça, c'est pour ça que c'est dans longtemps, c'est qu'il faut faire toutes les recherches avant et trouver la documentation.
Sachant que les violences faites aux femmes dans le milieu artistique, il y avait Hélène Soulier qui avait fait un très beau cycle de conférences à Tropisme là-dessus. Et j'avais vu c'était des chercheuses en université. Et ça m'a révélé, ce jour-là, pourtant, ça fait pas si longtemps que ça, donc j'avais déjà de l'âge, j'aurais dû le réaliser avant, que le rapport de la femme artiste, notamment par exemple quand tu es comédienne, et on parlait des rapports avec les metteurs en scène, par exemple, parce qu'il y a des violences faites aux femmes, tous les MeToo, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire que ce sont des hommes de pouvoir, donc est-ce que le problème, c'est le pouvoir, ou est-ce que c'est le fait que ça soit un homme, ou que ça soit un homme qui ait le pouvoir, c'est peut-être ça le vrai problème, mais que, quelque part, quand tu es comédienne, tu vas rencontrer ton metteur en scène, tu vas rencontrer Epstein, comment il s'appelait, tu as besoin du rôle, donc tu vas quelque part te vendre, tu vas te séduire. Jusqu'où l'homme en face joue de ça, tu vois, c'est un rapport particulier quand même, la femme et l'art. C'est comme tu dois plaire quand tu es artiste, quand est-ce que l'autre en face fait semblant de pas comprendre et qu'il l'utilise justement. Et jusqu'où tu peux aller dans la résilience, parce que bon, la résilience c'est bien joli, mais moi, résilience pour moi, mais pas pour les autres, hein, dans ces cas-là, Poivre d'Arvor, voilà. Quand Poivre d'Arvor reçoit des petites journalistes qui pensent qu'elles vont avoir un stage et qu'il abuse de ce pouvoir-là, il est là le problème de l'artiste, de la créatrice en tout cas. C'est quelque chose, c'est dommage, Léonie, sa parole aurait été importante, parce que c'est quelque chose aussi qu'elle doit gérer, elle. Léonie, donc, est technicienne à la radio, mais qui est d'abord chanteuse et artiste, a un rapport aussi compliqué avec ça. J'ai été claire ou j'ai un peu
monologué? Non, très claire. Non.
Mais c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être traités à travers les siècles aussi.
Oui.
J'imagine que tu as rencontré beaucoup de femmes marquées par des traumatismes. Qu'est-ce que ces rencontres ont changé dans ton engagement ?
Je pense qu'au départ, j'étais moins engagée parce que voilà, c'était plus de la littérature. Donc, j'allais voir, me renseigner sur des chiffres. C'était un peu moins palpable. Et plus j'en discute, et plus je me dis, mais en fait, c'est vraiment partout, sachant que les chiffres, c'est pas vraiment ça. Il y a plein de gens qui n'en parlent pas.
Bien sûr.
Et donc, moi, ça me révolte. Et ça me donne envie... De créer des choses, de faire de l'information, de créer des choses aussi avec d'autres personnes. Enfin, que je dis pas que ça sera, je dis pas que je serai moteur de révolution, hein, mais de créer des petites choses qui peuvent faire réfléchir, au moins.
En tout cas, on ira ensemble. Parce que là, elle n'est pas là, mais on pense fort à elle, à Léonie. Mais tu as une bande de révoltés aussi assez costaud ici.
Oui, c'est vraiment chouette.
On va marquer une première pause, enfin, on va marquer une autre pause musicale. Alors là, je me retire, saisissez-vous deux qui vous y êtes mis toutes les deux pour nous proposer
Suzanne, j'accuse.
On écoute et on se retrouve juste après.
D'abord, il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie. Et ma copine Claire, et puis à moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu. Je t'accuse, c'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su. Je t'accuse. Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Où faudrait faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu. Je t'accuse, c'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su. Je t'accuse. Pour celle qu'avait prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celle qui prenne la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.
Et vous êtes toujours sur Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble, radio qui vient de relancer un nouveau site que vous pouvez retrouver sur radiofmplus.org, tout simplement le nom du site. Vous aurez toutes vos émissions, vos podcasts, et vous aurez même les pochettes des albums qu'on écoute. C'est vraiment the site où il faut être en ce moment, hein, Lou ? Il est beau notre site.
Magnifique.
Ah, elle était sur autre chose, Lou. Lou, donc je suis en compagnie de Lou, c'est Yann qui est derrière la vitre pour nous enregistrer. Salut à toi, Yann. Et donc nous sommes le jeudi 4 et nous sommes en compagnie d'Alissande. Alissande, on a parlé un peu de ton projet, de ton parcours, de notre rencontre, hein, qui a eu lieu autour de la résilience et de la femme dans l'art. Et puis après, on a discuté toutes les deux, on s'est dit, voilà, il y a des choses que tu aimerais bien faire en radio. C'est quoi comme, pour toi, comme média, la radio ?
Moi, je le trouve super intéressant. J'écoute beaucoup la radio quand je fais des choses. Et à la base, dès que je fais quelque chose, j'écoute beaucoup France Inter.
Ah.
Et en fait, j'apprends plein de choses tout en faisant des choses. Et la différence avec la vidéo, c'est que j'ai l'impression d'être plus focus sur ce qui est dit plutôt que sur comment la personne va mettre en scène son information.
Et sur l'apparence aussi, je trouve ça important. Bah, récemment, quand on a fait une formation sur la voix des femmes, il parlait justement de ce qui est important, c'est ta voix, c'est pas le reste. La vidéo, voilà, il y a tout ce qui est genre ton apparence, etc. Et du coup, il y a encore plus de pression, notamment chez les femmes, de l'apparence. Alors que la radio, même s'il y a des discriminations en ce qui concerne la voix, c'est seulement la voix.
Ouais. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. On se fait une idée des personnes aussi quand on regarde la vidéo, alors qu'à la voix, on va plus écouter ce qui est dit que se faire une idée de la personne.
Ouais, on se fait toujours des idées des personnes, mais oui.
Bien sûr, c'est étrange d'ailleurs. C'est étrange, il y a des fois où, notamment par exemple, quand tu as la chance de vieillir avec une voix encore jeune, excusez-moi, là j'ai un chat, les gens ne pensent pas quel âge tu as derrière le micro. Et puis quand tu dis, évidemment, hein. Alors évidemment, c'est les gentillesses qu'on donne généralement aux femmes à ce moment-là, elles prennent cher, enfin bon, voilà, toutes ces jeunes.
On ne s'attendait pas à ça.
On ne s'attendait pas à ça, bah, elle n'est pas bonne, enfin bon, voilà, elle est bonne, enfin bon, voilà, des choses très très agréables à entendre. Lou, quand je t'ai parlé d'Alissandre, quand on s'est vus, je t'ai dit, voilà, Alissandre, on allait faire des choses, et puis vous avez un peu échangé toutes les deux.
Oui.
Vous avez pensé à des choses à nous proposer, justement, sur quoi ?
Tu veux en parler, Alissandre ?
Comme tu veux.
Je te laisse en parler, okay. C'est ton émission aujourd'hui.
Donc, avec Lou et Léonie, on veut faire une émission sur qu'est-ce que le sexisme, et donc de partir des violences les plus visibles à ce qui est le plus invisible.
Espèce d'entonnoir, comme tu
disais. C'est ça, pour aboutir à, bah, c'est quoi le sexisme ? Donc partir de plein d'exemples, pour après faire une conclusion sur qu'est-ce que c'est.
Et tout de suite, bon, je sais que Léonie, elle est passionnée par ça. D'ailleurs, une chose qui m'interpelle, je ne sais pas quel âge tu as, Alissandre, tu es peut-être un peu plus âgée que Lou. Mais est-ce que, par exemple, ici, on a une voix féministe, hein, la voix de Françoise Mariotti, qui est une féministe radicale, qui est de ma génération. Moi, ça m'intéresse beaucoup quand on parle des femmes, de résilience, de MeToo, de tout ce dont on parle depuis le début de l'émission, sur la différence entre notre voix de la soixantaine passée, voire bien passée, et votre voix à vous. Parce que des fois, même moi qui suis, ou Françoise, bon, Françoise elle est plus virulente que moi, mais même moi, enfin, là-dessus je suis quand même hypersensible, je me sens des indulgences que Lou n'a pas du tout, ou que Léonie n'a pas du tout. C'est-à-dire que même quand un mec a un comportement un peu borderline, je vais être là en disant « Oh, les filles, pas si grave, voilà. » Alors que Lou ou Léonie, c'est niette. C'est-à-dire, le mec, il part. Et ça, c'est... T'inquiète pas, c'est parce qu'il y a des travaux dans le... Okay. Le bruit que t'entends derrière, c'est les travaux qui sont en dessous. C'est intéressant ça, de vous entendre là-dessus, Lou. Est-ce que tu sens cette différence entre, par exemple, moi et toi ?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même moins de tolérance sur plein de trucs parce qu'il y a une histoire de ras-le-bol, qu'il y a eu MeToo qui est passé par là, qui a fait que vraiment, ça a pris une très grosse ampleur. Pour le bien de tout le monde, j'ai envie de dire. Enfin, pour le bien des femmes, en fait, particulièrement. Donc oui, je pense qu'effectivement, on a beaucoup moins de tolérance qu'avant, bien sûr.
Toi, tu te sens aussi... non, pas de tolérance, quoi. Il y a des choses, c'est pas possible.
Moi, j'ai l'impression que ça va être en cas particulier, suivant ce qu'on a vécu. Et est-ce que je suis tolérante ou intolérante ? Je sais pas trop.
Non, mais c'est pas une question... de tolérance globale, mais est-ce que si tu veux, voilà, un propos déviant, bon, repense juste à un échange qu'on a eu avec Lou sur des chansons pédophiles. Enfin,
oui.
Et dedans, il y avait Léo Ferré. Moi, j'adore Léo Ferré, c'est ma génération, vous deux, vous le connaissez peut-être pas.
Voilà, je connais pas le nom.
Voilà. Et Léo Ferré a écrit une chanson qui a d'ailleurs été chantée surtout par Juliette Gréco, qui s'appelle Jolie Môme. Et c'est « T'es toute nue sous ton pull, il y a la rue, qu'est ma boule, Jolie Môme ». Et Jolie Môme, visiblement, on comprend qu'elle a 15-16 ans, Jolie Môme, quoi, tu vois. Et quand je disais ça, et donc elle est listée dans les chansons pédophiles. Et quand je disais ça à Lou, oui,
dit, bah, c'est normal, c'est insupportable, alors que moi, je serais pleine de tendresse pour cette chanson, si tu veux. J'ai l'impression que les jeunes femmes, et je pense à ma fille, par exemple, qui a 28 ans, elle, c'est niette, mais alors niette et archi-niette et reniette, quoi.
Mais surtout les chansons qui, des fois, ont des propos, mais horribles. Enfin, Léo Ferré, il a fait chanter une chanson, enfin, cette chanson par une femme, mais il en a fait d'autres où lui-même chantait, et c'était pareil, genre très, très centré sur les gamines de 15 ans,
etc. Il y a toujours eu ça, mais moi, je suis d'une génération, si tu veux, je te dis pas que c'était permis, mais c'était pas le sujet, quoi. J'ai l'impression que là, vous, votre génération, les moins de 30 ans, je dirais, se sont beaucoup durcis par rapport à nous. Mais c'est bien, hein, y a rien de négatif dans mon terme durci.
Mais après, on peut aussi le voir dans les archives de l'INA, c'est-à-dire dans les années 80 ou sur les plateaux télé, il va y avoir des comédiens qui vont dire « Ah là là qu'ils ont couché avec des personnes de 16 ans. » Et en fait, c'est révoltant. Nous, de notre génération, c'est super révoltant. Mais je pense que ouais, c'est par période. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où peut-être que le focus était sur autre chose. Et donc, en fait, il y avait des choses où on disait « Ah, mais allez, laisse passer et tout ça. » Alors que maintenant, non.
Et alors, justement, tu parles de période. Est-ce que vous ne pensez pas... Tout ça, c'est bien, c'est des sujets que vous pourrez aborder hein, dans les prochaines émissions. Mais est-ce que vous ne pensez pas, et moi je le crains beaucoup en ce moment, au ressac ? C'est-à-dire qu'il y a eu la vague MeToo, et qu'en ce moment, regardez par exemple aux États-Unis et même en France, l'arrivée des masculinistes est quand même très très forte, et les propos sont d'une violence anti-femme absolument monstrueuse. J'ai l'impression qu'en définitive, 5, 6, 7 ans après MeToo, la vague qui a écrasé... moi, je me rappelle que même aujourd'hui, quand on parle, je vois des sujets sur Rose McGowan qui a beaucoup porté le projet MeToo, une actrice qui a été victime de Weinstein.
C'était Weinstein.
Weinstein, c'est l'autre. C'est deux pourritures.
Oui, c'est deux pourritures, mais c'est bien.
C'est Weinstein. Mais comment ces femmes-là sont presque aujourd'hui, commencent à être décrédibilisées. Est-ce que ça, vous le sentez venir aussi, par exemple, cette vague masculiniste?
Oui. Et en Angleterre, il y a même le Parlement qui parle des influenceurs masculinistes qui font du mal en fait aux jeunes garçons. Parce que ces jeunes garçons qui sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, ils vont avoir comme modèle ces masculins et ils vont avoir des comportements au collège ou au lycée anti-femmes et très déplacés.
C'est les réactions de l'Angleterre. Je crois que c'était notamment le Premier ministre de l'Angleterre, si je ne me trompe pas, ça reste à vérifier, qui a parlé de la série Adolescence qui est sortie récemment sur le sujet. Donc, les adolescents qui ont été... sont tombés en fait dans tout ce qui est réseau de masculinistes. Et justement, le Premier ministre applaudissait en gros la série Adolescence en disant qu'effectivement il fallait se méfier, qu'il fallait prendre des mesures contre tout ce qui était les réseaux de masculinistes.
Et parce que je crois que même toi qui es toute jeune, ça touche les jeunes plus jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les influenceurs masculinistes s'adressent aux mômes qui ont 15-16 ans. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà 22 ans, ils sont déjà avancés. Enfin, je vois ici par exemple, on a des mecs chouettes quand même.
Bien sûr, mais si c'est ça, c'est que c'est souvent des adolescents qui sont en pleine construction, donc évidemment que c'est plus facile à atteindre. Il y a plein de vidéos sur ça, comment ça agit sur le cerveau, pourquoi c'est centré sur tel type de profil. C'est super intéressant, mais c'est aussi à la fois extrêmement inquiétant.
Oui, c'est super angoissant, machin. Il n'y a pas que ça pour angoisser. Il y a pas longtemps, je ne sais plus qui a dit, alors je ne sais pas si c'est pas Ségolène Royal, mais elle est intervenue là-dessus, elle dit des choses pas mal en ce moment, Ségolène Royal. Mais il y avait un truc comme quoi il fallait lâcher les filles avec tout ça et reporter toute l'énergie sur l'éducation des garçons. Quand définitive, le problème là, il n'était pas de nous dire, cache ton épaule, loup. toi aussi, là, on voit un peu ton débardeur. Mets un col roulé, mets des pantalons et pas de jupe courte. Enfin, en définitive, nous, de changer nos comportements, c'était encore une charge mentale pour nous, mais de travailler franchement sur les garçons. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est ça, c'est laisser vos filles et éduquer vos fils. C'est vraiment... Mais c'est une phrase
qui c'est bien, est ça.
Complètement vraie.
Ouais. Tu adhères aussi, Lissande, à ça?
Oui, mais pas que, parce qu'on a aussi... de la misogynie ancrée en nous en tant que femmes. Oui. Enfin, Je veux dire, en fait, il y a plein de choses à revoir dans l'éducation.
Ces garçons ont bien eu des mères.
Oui, ben mais oui. Je pense que c'est... Est-ce que vraiment la responsabilité, c'est qu'aux mères? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est aussi à la société entière. Qu'est-ce que les pubs nous placardent? Est-ce que on
l'école,
a... Voilà.
L'éducation, c'est la base.
Mmh. Il n'y a pas longtemps, j'étais tombée sur une vidéo, et j'ai oublié les noms des chercheurs.
Bon, les filles, pour la prochaine émission, vous préparez vos noms, là.
Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Parce qu'on en reparlera, de toute façon, dans les autres émissions. Sur des enfants qui sont à l'école primaire et qui hiérarchisent déjà. Donc, à la base, ils sont partis sur des métiers, et après, ils se sont rendus compte que les enfants hiérarchisaient aussi les genres.
Mmh.
Donc, un garçon, il fait « Ah non, mais je ne vais pas jouer avec une fille, hein. » Parce que pour lui, déjà, il a intégré qu'une fille, c'est en dessous. Enfin, et donc, au final, il y a aussi toute l'éducation à l'école, tout ça. Pourquoi est-ce que aussi jeune, il y a déjà une hiérarchie des genres?
D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille une émission, alors, je ne sais pas, sur France Inter ou France Culture hier, je crois que c'était sur France Inter, dans Zen, Zoom, Zen. Hein.
Zoom, Zen.
Il y avait une émission sur la bisexualité. Et c'était incroyable, c'est les bisexuels qui sont le plus harcelés, plus que les homosexuels. C'est dans le, bon, t'as les hétéros, les homos, etc. Mais le pire de tout, c'est la bisexualité qui est vraiment très problématique et qui, en plus, est, on parlait de pommes en off. Et c'était une des premières à avoir assumé ça avec Angèle, hein, notamment. Et elles en parlaient très, très bien. Mais je la conseille, cette émission, sur le podcast de Zoom Zoom Zen d'hier. Vous voyez qu'on est
dans Tanguy Pastureau.
Voilà. Avec Tanguy Pastureau et Thomas. Non, je ne me rappelle plus. Julien, Noël. C'est pas Julien, mais c'est Noël. On va se quitter bientôt. Donc, je vous laisse le micro, les filles, pour nous dire de quoi vous allez donc parler. L'émission sera début janvier. Ça sera une espèce de grand bain pour toi, hein, Lissandre.
Oui.
Bon, tu seras accompagnée par deux belles naïades. Donc,
voilà. Je ne m'inquiète pas.
Ah, non. Tu ne t'inquiètes pas. Voilà, sur le sujet sur lequel vous avez donc commencé à revenir, sur le sujet sur lequel vous avez commencé à travailler.
Voilà, la première chronique, on parlera des violences conjugales, ce qui est le plus visible. Et si on a le temps, des violences médicales, sinon ça sera dans la prochaine chronique.
Je crois qu'il y a du sujet. Hein.
Oui, ça va. Oui.
Ça, on va pas manquer. Hein.
Non, non.
Avec mes battantes, avec mes combattantes, et avec Léonie qui vous rejoindra, je crois, pour tous ces projets.
Oui, exactement.
Hein. Ben, je vous remercie vraiment beaucoup, Lou, de m'avoir accompagnée pour ma reprise.
Mais pas de souci, hein, ça me fait très plaisir.
Voilà. N'oubliez pas d'aller regarder sur radiofmplus.org notre nouveau site avec la musique, les podcasts. Et puis moi, je vous retrouve mercredi prochain. Pour le nouveau 10-10, je crois que je serai en compagnie de Joël Lopez, voilà, pour vous présenter une invitée. Je ne serai pas leader dans l'émission, ça sera une surprise. Et puis nous, on vous retrouve donc à Lissandre début janvier sur nos ondes.
C'est ça.
Voilà.
Ben, merci.
Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis à demain, vendredi, ça sera avec Maria que vous vous retrouverez. Bonne journée à tous. Au revoir.
Radio FM+.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.